Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Regardons ensemble ce soir le premier chapitre des Romains. Ce soir, nous allons examiner Romains 1, 18. Je crois qu'en examinant ce verset très critique, nous trouvons la clé qui ouvre l'Évangile, le point de départ de l'évangélisation. Maintenant, l'apôtre Paul a annoncé son thème, au verset 16 et 17, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ ». C'est vraiment son thème. Il l'a appelé « l'Évangile de Dieu », au verset 1, parce que Dieu est sa source, et l'Évangile du Christ, au verset 16, parce que Christ est son point culminant. Il a dit qu'il n'a point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous avons vu que la thèse, ou le thème de l'épître entière aux Romains, était sous une forme condensée. Maintenant, alors qu'il passe au verset 18, il commence à dévoiler en détail la substance de ce thème, pour aider le lecteur chrétien à comprendre la signification de la plénitude de l'Évangile du Christ. Tout commence au verset 18, avec cette déclaration. « La colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. » Le message de l'Évangile commence par une déclaration sur la colère de Dieu. Franchement, c'est diamétralement opposé à la plupart de notre technique d'évangélisation. La plupart de notre évangélisation contemporaine évite volontairement ce thème. Nous parlons d'amour, nous parlons de bonheur, nous parlons de vie abondante, nous parlons de pardon, et nous parlons de joie, nous parlons de paix. Nous offrons aux personnes toutes ces choses, et leur demandons s'ils ne voudraient pas avoir toutes ces choses. Mais on parle vraiment très rarement de jugement. Je me demande à chaque fois que vous avez présenté l'Évangile à quelqu'un, combien de fois l'avez-vous présenté en disant « Au fait, saviez-vous que la colère de Dieu est révélée contre votre impiété ?» Je suppose que Dale Carnegie a même affecté nos présentations de l'Évangile. Nous sommes tellement pressés de nous faire des amis et d'influencer les personnes que parfois nous contournons le point de départ. Du point de vue de Paul, la peur devient la première pression exercée sur les hommes pervers. Faites-leur connaître la colère de Dieu. Certes, la colère de Dieu est un sujet difficile, et je ne suis pas ici pour vous dire que c'est un sujet facile. Je trouve moi-même très difficile de commencer à parler aux personnes du Christ à ce stade. Pourtant, c'est le début de l'Évangile et la bonne préparation pour l'annonce de la grâce. Comment les personnes peuvent-elles comprendre quoi que ce soit l'amour s'ils ne comprennent pas la haine de Dieu? Comment peuvent-ils comprendre quelque chose à propos de sa grâce s'ils ne connaissent pas sa loi? Comment peuvent-ils comprendre le pardon s'ils ne comprennent pas la peine du péché? Les hommes ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas rechercher la grâce et le salut, à moins d'être affectés par la crainte de la colère de Dieu qui est sur eux, à moins que les hommes ne sentent qu'ils courent un grave danger. Aucune pression ne leur est appliquée pour changer. Maintenant, parfois, lorsque vous parlez de Dieu comme d'un Dieu de colère, certaines personnes sont dérangées. Ils ne comprennent pas comment Dieu peut être un Dieu de colère, un Dieu de fureur, un Dieu de terreur. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Voyons si nous ne pouvons pas nous aider à mieux comprendre sa colère, en perspective, avec tous ses autres attributs. Les attributs de Dieu sont équilibrés dans sa perfection divine. Ils sont parfaitement équilibrés. Si Dieu n'avait pas de colère, alors il ne serait pas Dieu. Dieu est parfait dans l'amour, d'une part, et il est également parfait dans la haine, d'autre part. Tout aussi totalement qu'il aime, il déteste aussi totalement. De même que son amour n'est pas mélangé, sa haine non plus. Du Christ, il est dit dans Hébreux 1:9, « Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. » Il y a cet équilibre parfait dans la nature de Dieu. Comme je l'ai mentionné, l'une des tragédies du christianisme à notre époque est l'échec à prêcher la haine de Dieu, le jugement de Dieu. Nous sommes tellement doucereux, nous sommes tellement sentimentaux, nous sommes tellement mous dans notre christianisme. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu une nouvelle chanson sur la colère de Dieu? En avez-vous entendu une dernièrement? Pas moi. Juste pour prouver un point dans mon esprit, j'ai un vieux psautier, un ancien psautier de la fin du 19e siècle. Je l'ai sorti de l'étagère et j'ai commencé à le parcourir. J'ai trouvé hymne après hymne sur la colère de Dieu, sur la vengeance de Dieu, sur le jugement de Dieu. Des hymnes qui ressemblaient beaucoup au psaume imprécatoire, où le psalmiste demande à Dieu de descendre et de condamner ses ennemis. Les personnes n'écrivent plus des hymnes comme cela. Les personnes n'exaltent pas la colère de Dieu. Nous ne voulons pas en parler dans notre approche de l'avenue Madison pour présenter le message. Mais nous ne comprendrons jamais du tout la réalité profonde de l'amour de Dieu tant que nous n'aurons pas compris sa haine. Il doit y avoir une délimitation très claire de ce que Dieu déteste. Puis-je ajouter que ce n'est pas pour dire que Dieu n'aime pas, mais c'est pour dire que vous ne comprendrez jamais à quel point son amour est grand si vous ne savez pas à quel point sa haine est grande. Je veux dire, si vous comprenez que Dieu déteste si profondément le péché, alors vous trouverez d'autant plus étonnant qu'il puisse aimer les pécheurs. De sorte que, sans une compréhension de sa haine, son amour est également paralysé dans notre pensée. Amour et grâce, nos termes préférés, n'ont aucun sens si Dieu ne hait pas. Maintenant, malgré notre aversion à voir Dieu comme un Dieu de haine et un Dieu de colère, les Écritures le soulignent clairement. Et je veux vous emmener dans une sorte de tour en jet à travers certaines Écritures. Psaume 2:1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. En d'autres termes, trouvons Dieu, supprimons Dieu, supprimons son règne. Il nous intimide, éliminons-le. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Le verset 12 dit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » En d'autres termes, quand Dieu se met juste un peu en colère, les personnes périssent. Regardez le psaume 76, une autre illustration. C'est une réflexion sur le jugement de Dieu sur l'armée égyptienne. Il dit dans le psaume 76:6 « À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice. » Regardez le psaume 78:49. Voici la colère de Dieu déversée de nouveau contre les ennemis d'Israël. Verset 49. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force de toutes les tentes de Cham. Dieu était en colère. Dieu était féroce. Dieu avait de la colère. Dieu était indigné. Dieu a provoqué des problèmes très graves. Psaume 90:7. Il dit « Et cela parle de l'homme tel qu'il se tient devant un Dieu saint. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. » Verset 11. « Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Ceci est le livre des cantiques d'Israël. » Je me hâte d'ajouter qu'ils avaient des hymnes sur la colère de Dieu. Cela faisait également partie de la nature de Dieu. Les prophètes ont souvent parlé de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Dans Ésaïe 9:19, il est dit « Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé. » Et ensuite cette déclaration étonnante, « Et le peuple est comme la proie du feu. » Jérémie a également parlé de la colère de Dieu, 7:20. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. » Ézéchiel, le prophète de Dieu, 7:19, dit que leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Maintenant, ce ne sont que quelques passages, mais la Bible est remplie de déclarations sur la colère de Dieu. Vous voyez sa colère illustrée dans l'Ancien Testament, contre l'Ancien Monde, quand il a porté le déluge, contre le peuple à la tour de Babel, contre Sodome et Gomorre et les villes de la plaine, contre les Égyptiens, à plusieurs reprises contre les Israélites, contre les ennemis d'Israël. Vous voyez sa colère se répandre contre Nabab et les autres, contre les espions, contre Aaron et Myriam, contre Abimélec, contre la famille de Saül, contre Sennachérib, et cela continue encore et encore. Vous dites, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai, mais Dieu ne change pas. La même chose est également vraie dans le Nouveau Testament. Vous voyez la colère de Dieu. Dans Jean, chapitre 3, Jean, ce merveilleux évangile, écrit par un homme d'amour, cet évangile qui présente le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa merveille, sa majesté et sa beauté, est encore un évangile qui parle de la colère de Dieu. Jean parle à plusieurs endroits, comment cette colère de Dieu sera déversée, mais en particulier est à la fin du troisième chapitre, le dernier verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans l'épître même qui est devant nous, Romains, Paul souligne la colère de Dieu quand, en 9:22, il dit « Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ?» Ainsi de suite, dans Éphésiens 5:6, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » La Bible dit que Dieu condamnera les non-croyants. Le chapitre 3 de Colossiens dit exactement la même chose. Le chapitre 1 de 2 Thessaloniciens est peut-être le plus vivant de tous. Il parle de Dieu venant au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dieu est un Dieu de colère. C'est un Dieu de colère. Cela ressemble-t-il maintenant à un mauvais choix de point de départ pour l'Évangile? Pensez-y. Les mauvaises nouvelles doivent passer avant les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? C'est un peu comme aller chez le médecin et que le médecin vous dise « J'ai de mauvaises nouvelles. Vous avez une maladie mortelle qui a tué de nombreuses personnes. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Un remède a été trouvé, et je l'ai ici. » Vous voyez, les bonnes nouvelles ne signifient rien sans les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Vous devez diagnostiquer la maladie avant que la guérison ne veuille dire quoi que ce soit. La mauvaise nouvelle est que Dieu déteste. La bonne nouvelle est que Dieu aime. Mais vous devez commencer par sa haine. D'abord le diagnostic, puis le remède. Maintenant, regardez à nouveau le verset 18. Il dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel. Pourquoi est-ce, car là-bas ? À quoi cela sert ? Cela nous relie au passage précédent. Le passage précédent dit que la justification est par la foi seule. Pourquoi ? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En d'autres termes, ce que dit ce verset, c'est que tous les hommes détiennent la vérité injustement et sont sous la colère de Dieu. Par conséquent, ils n'ont pas la capacité de se justifier. La justification doit donc être par la foi, car tous les hommes, livrés à leurs propres efforts, sont sous la colère, est-ce que vous voyez ? La justification est par la foi. Cela doit l'être. Cela ne peut pas être par les œuvres, parce que par les œuvres, tous les hommes sont sous la colère. Paul le dit d'une autre manière. Il dit, « Car tous ont péché, et quoi ? Manque la gloire de Dieu. » Dans Éphésiens 2, il est dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ainsi avec tout le monde. Dans le temps passé, vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » L'esprit qui agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels nous avions tous notre mode de vie, nous tous, dans le passé, et la convoitise de la chair, les désirs de la chair et de l'esprit, étions par nature les enfants de la colère. Toute personne née dans ce monde est un enfant de colère. Toute personne née dans ce monde est victime de la convoitise et du désir envers les mauvaises choses. Tout le monde est né spirituellement mort. Nous sommes tous, dit Paul, déjà condamnés, ou plutôt Jean, condamnés déjà parce que nous ne croyons pas en Christ. Franchement, la sentence a déjà été prononcée. Toute la race humaine est condamnée à l'enfer. Nous sommes tous des enfants de colère sous le jugement de Dieu. L'homme est né condamné. Tous les hommes sont nés dans le monde sous la colère. Donc, nous commençons par cette déclaration classique, juste pour vous donner un aperçu Le passage sur la condamnation de la race humaine commence en Romains 1:18 et va jusqu'à 3:20. Donc, nous allons y rester pendant un certain temps, et vous allez voir des choses sur les raisons pour lesquelles les personnes font ce qu'elles font, et peut-être que vous n'avez jamais vu cela auparavant. Mais commençons par regarder simplement le concept de colère au verset 18, et cela nous donne une perspective absolument complète à ce sujet. 6 caractéristiques de la colère sont présentées ici. Vous pouvez suivre votre plan, et cela vous aidera à rester concentré sur ceci. Premièrement, la qualité de la colère. Sa qualité, son essence. De quel genre de colère s'agit-il? C'est la colère de Dieu. C'est la colère divine. Et c'est un début très important. C'est la colère divine. Cela ne ressemble à rien d'autre que nous connaissons dans ce monde. Ce n'est pas comme votre colère ou ma colère. Ce n'est pas comme quand on se met en colère. Ce n'est pas comme quand on s'énerve. On se met en colère et on se fâche quand on est offensé. Franchement, nous sommes fiers de cette manière. Notre passion, notre colère et notre courroux ne sont pas comme cela. C'est la colère de Dieu. Comme tout autre attribut de Dieu, il est aussi parfait que sa sainte personne. Sa colère est une colère juste. C'est le bon type de colère. C'est une colère sainte. La passion que nous appelons colère dans ce monde humain est toujours le reflet du cœur mauvais de l'homme. Mais nous ne pouvons pas imposer cela à Dieu. Un écrivain a dit, « Nous ne pouvons pas penser avec la pleine cohérence de Dieu en termes des idéaux humains les plus élevés de la personnalité, et pourtant lui attribuer la passion rationnelle de la colère. » En d'autres termes, cet écrivain disait, « Dieu ne pourrait jamais être en colère, parce que nous savons que la colère est une mauvaise chose. » Mais il essaie simplement de dire que Dieu est comme nous, alors qu'il ne l'est pas. Ne poussez pas notre concept de colère sur Dieu. Dieu est en colère d'une manière sainte, d'une manière parfaite. La colère de Dieu n'est pas une rage capricieuse et irrationnelle. En fait, permettez-moi d'aller plus loin. Vous recevez ici une leçon de théologie sur la nature de Dieu. Dieu ne pouvait pas être Dieu, être saint, et être entièrement bon, s'il ne réagissait pas au mal. Comprenez-vous cela? Il le doit. Il ne peut pas être Dieu. Vous ne pouvez pas être saint et tolérer l'impiété. Cela ne peut pas être possible. C'est pourquoi Habacuc, le prophète, a dit « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu ne peut pas le tolérer. Je vais vous dire quelque chose. Plus vous devenez divin, plus vous serez en colère contre certaines choses. Même dans ce monde déformé des hommes, l'indignation contre la méchanceté est essentielle à la bonté humaine. Nous nous attendons à ce que les personnes se fâchent contre certaines injustices. Mais Dieu est infiniment au-delà de cela, parce que même lorsque nous nous fâchons contre les bonnes choses, cela est généralement pollué par notre péché. Une illustration classique était Jésus dans Jean 2, nettoyant le temple. Il a tout secoué et commencé à jeter les personnes hors du temple. Je veux dire, c'est une scène très dramatique. Veux-tu savoir quelque chose? C'était son premier acte public à Jérusalem. Ce n'est pas ainsi que vous lancez une croisade. Vous n'allez pas dans les lieux religieux, ne prenez pas un fouet et ne commencez pas à flageller tout le monde, renversant les tables et criant sur leurs péchés. Vous ne gagnerez jamais une foule de cette façon. Vous devez envoyer le comité en avant, les faisant résonner comme une douce harmonie des harpes et des fleurs. Jésus était furieux, parce que Dieu était déshonoré. Il y avait de la malhonnêteté, de la tricherie, du mensonge, de l'extorsion et de la profanation. Donc, ne regardez pas la colère basse, irrationnelle et égoïste des hommes, puis ne la posez pas sur Dieu. La colère de Dieu est toujours parfaite, toujours. La colère des hommes est toujours en quelque sorte compromise par la présence du péché. Juste pour alimenter votre réflexion, écoutez ce que le psalmiste a écrit. Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Est-ce vrai? Vous dites, attendez une minute. Vous voulez dire que les justes sont tellement excités par le jugement de Dieu qu'ils veulent se laver les pieds dans le sang des méchants? Pour qu'un homme dise, en vérité, il y a une récompense pour les justes. En vérité, il est un Dieu qui juge sur la terre. En d'autres termes, quand Dieu juge, c'est si juste, c'est si parfait, c'est si absolument saint que le peuple de Dieu est vu comme s'il se lavait les pieds dans le sang des injustes. Un concept incroyable. Dans le chapitre 1 des Lamentations, le Seigneur est juste, car je me suis rebellé contre son commandement. Écoutez, je vous prie, vous tous, et voyez ma douleur. En d'autres termes, Dieu juge, mais ça va. Je le mérite. Il est juste. Vous souvenez-vous ce qui est arrivé à Achan? Dieu a dit, « Lorsque vous entrez pour prendre Jéricho, ne volez rien. » Achan a tout simplement volé tout ce qui était en vue. Il a juste désobéi. Il est revenu et a tout enterré dans le sol, au milieu de sa tente. Josué est allé vers lui et a dit, « Confesse ton péché. » Josué 7:19. « Confesse ton péché et rends gloire à Dieu. » Maintenant, que voulait-il dire par là? Il voulait dire qu'Achan allait vraiment obtenir le jugement de Dieu. Je veux dire, il allait l'obtenir, et c'est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé. Il est mort, et toute sa famille avec lui. Ensuite, ils doivent avoir été impliqués dans tout cela. Mais il dit, « Avant d'obtenir votre juste jugement de Dieu, vous confessez votre péché. En d'autres termes, vous dites, « Je suis coupable. Ce que Dieu me fait, c'est la réaction appropriée de sa sainteté. Vous voyez, c'est le problème. » En d'autres termes, n'accuse jamais Dieu comme s'il avait fait quelque chose d'impur. Même quand Dieu est en colère, c'est la juste expression de sa sainteté absolue. Nous voyons cela chez les Romains. Nous le voyons là où nous sommes. La colère de Dieu est révélée contre toute impiété et toute injustice. Nous allons le voir encore et encore au chapitre 2 et au chapitre 3. Que la justice de Dieu ou le jugement de Dieu est un jugement juste. Je pourrais juste ajouter que le mot est orgée, et c'est une indignation résolue, et non une humeur momentanée. Dieu ne réagit pas sur un coup de tête. Dieu n'agit pas juste sur une colère. C'est une haine établie de la part de quelqu'un qui ne pourrait jamais être bon et aimant, à moins qu'il ne déteste totalement le mal. Les deux sont inséparables. Vous avez les deux ou aucun. Trench, le grand commentateur du langage dans la parole de Dieu a dit, « Il ne peut pas non plus y avoir de signe plus sûr ou plus triste d'une condition morale complètement prostrée que de ne pas pouvoir être en colère contre le péché et les pécheurs. » Le vieux saint du nom de Fuller a écrit ceci, « La colère est l'un des nerfs de l'âme. Celui qui n'en a pas a l'esprit estropié, comme les tendons de Jacob rétrécis dans le creux de sa cuisse, et il doit boiter. » Thomas Watson dit, « Dieu est-il si infiniment saint ? Alors voyez à quel point le péché est différent de Dieu. Le péché est une chose impure. Cela s'appelle une abomination. Dieu n'a aucun mélange de mal en lui. Le péché n'a pas de mélange de bien. C'est l'esprit dans la quintessence du mal. Cela transforme le bien en mal. Il a dépucelé l'âme vierge, l'a rendue rouge de culpabilité et noire de saleté. On l'appelle la chose maudite. Il n'est donc pas étonnant que Dieu déteste le péché. Il a raison. Ainsi, la qualité de la colère est qu'elle est une colère de Dieu, et c'est différent de tout autre type de colère. Deuxièmement, le temps de la colère. Regardez ce qu'il dit, car la colère de Dieu est révélée. Est révélée. Que veut-il dire par « est révélée » Littéralement, est constamment révélée. Quand est le temps de la colère de Dieu? Il est constamment révélé. La colère de Dieu se manifeste constamment. Le verbe « apocalypto » dont nous tirons l'apocalypsis ou l'apocalypse signifie découvrir, mettre en lumière, manifester, faire connaître. La colère de Dieu est toujours connue. C'est visible pour toute l'histoire humaine. Cela a été révélé dans le jardin, n'est-ce pas? Quand Adam et Ève ont péché et que la sentence de mort a été immédiatement prononcée, la terre a été maudite et ils ont été chassés du paradis. Le monde a eu une excellente leçon de départ sur le fait que Dieu déteste le péché. Cela a été révélé dans le déluge, lorsque Dieu a noyé toute la race humaine, à l'exception de 8 âmes fidèles. Cela a été révélé lors de la noyade de l'armée de Pharaon. Cela a été révélé dans la destruction de Sodome et Gomorre par le feu du ciel. Cela a été révélé dans la malédiction de la loi pour chaque transgresseur. Ça a été révélé dans l'institution du système sacrificiel et tous les services de la loi mosaïque. En fait, toute la création gémit et se débat dans la douleur, sous le jugement de Dieu, attendant la rédemption. Vous savez que même les lois des hommes faites contre les méchants révèlent la colère de Dieu, car toutes les lois sont basées sur l'Esprit de Dieu. Personne ne peut plaider l'ignorance parce que la colère de Dieu a été révélée à travers l'histoire humaine. Par-dessus tout, je crois que la plus grande démonstration de la colère de Dieu, jamais donnée, a été donnée sur la croix du calvaire. Dieu déteste si profondément le péché qu'il a en fait permis à son propre Fils d'être mis à mort, la plus grande manifestation de la colère de Dieu. Il a déversé sa fureur sur son propre Fils bien-aimé. Il ne voulait pas la retenir, même sur son propre Fils. C'est ainsi qu'il détestait le péché. Jeffrey Wilson, le commentateur britannique, écrit « Dieu n'est pas un spectateur oisif des événements mondiaux. Il est dynamiquement actif dans les affaires humaines. La conviction du péché est constamment rythmée par le jugement divin. Le jugement sur la croix résume l'histoire du monde. Alors, quel est le temps de la colère de Dieu? Il est constamment révélé tout le temps, tout le temps. Chaque fois que vous vous retournez, vous le voyez. Les personnes vivent et meurent. Les nations montent et tombent. Dieu juge le péché. Vous vous dites, comme je me suis dit à ce sujet dans mon étude, « Mais maintenant, attendez une minute. Il y a des personnes qui semblent prospérer malgré cela, n'est-ce pas? Il y a des personnes méchantes, qui semblent si bien faire. Vous vous posez la question, comment peuvent-ils vivre et s'en sortir? Je veux dire, pourquoi Dieu les laisse-t-il vivre des vies si misérables, dissolues, viles et pécheresses? N'oubliez pas que le psaume 9:16 dit, « L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Cela viendra. Si Dieu laisse les hommes prospérer pendant un certain temps dans leurs péchés, son vase de colère est tout simplement en train de se remplir. S'il les laisse pécher pendant un certain temps, c'est simplement parce qu'il aiguise l'épée. Plus Dieu retire l'arc longtemps, plus la flèche plonge profondément quand il le relâche. Le jugement viendra. L'histoire raconte que des fermiers pieux d'une communauté occidentale ont été profondément choqués un dimanche matin d'été lorsqu'ils se sont rendus en voiture à la petite église du pays. Ils ont trouvé que l'homme qui possédait les 40 acres en face de l'église était en train de labourer son champ. En tournant les sillons, il avait fait cela toute la journée en ignorant le fait que c'était le jour du Seigneur. Les personnes sont entrées dans l'église et pendant tout le temps qu'ils étaient à l'église, ils ont pu entendre le bruit de tous ces tracteurs. Donc, ils étaient profondément préoccupés. Ils avaient travaillé tous ces autres domaines et avaient délibérément choisi de travailler celui de l'église le dimanche, pour prouver un point. Il a écrit une lettre au rédacteur en chef d'un journal local et a souligné qu'il avait fait tout cela dimanche. Et pourtant, il avait le rendement le plus élevé par acre de toutes les fermes du comté. Il a demandé au rédacteur comment les chrétiens pouvaient expliquer cela. Il ne sentait pas du tout que Dieu était impliqué. L'éditeur, avec beaucoup de bon sens, a imprimé la lettre et l'a suivi de cette simple déclaration. Dieu ne règle pas tous ses comptes au mois d'octobre. La qualité de la colère, c'est la colère de Dieu. C'est différent de tout autre type de colère. Le temps, il est constamment révélé. La source, où est la source de cette colère? Regardez ce qu'il dit. La colère de Dieu est révélée du ciel. Le ciel est la source. La colère de Dieu vient du ciel. La terre est dominée par le ciel. La colère opère de manière dynamique et efficace dans le monde des hommes. Cela vient du trône de Dieu. Maintenant, il y a essentiellement deux façons dont le ciel révèle la colère de Dieu. Pensez avec moi à ces derniers. Le premier est ce que j'appelle l'ordre moral, et le second, nous l'appellerons l'action personnelle. La colère de Dieu est révélée du ciel tout d'abord par l'ordre moral. En d'autres termes, lorsque Dieu a créé le monde physique et moral, il a construit certaines lois. Si vous montez dans un grand bâtiment et que vous sautiez, vous descendrez. Peu importe ce que vous voulez faire, vous descendrez. Peu importe ce que vous pensez faire, vous descendrez toujours. La loi de la gravité. Il y a des lois. Vous allez dans une voiture à 130 km/h. Vous heurtez un mur de béton. Et une loi entre immédiatement en vigueur. La loi d'une force irrésistible et d'un objet immobile. Il existe des lois dans le monde physique. Il existe des lois dans le monde spirituel. Dieu a intégré la loi morale mondiale. Ce sont les lois des conséquences, si vous voulez. Je crois qu'il y a un certain ordre moral dans l'univers. C'est une certaine inévitabilité. Pour le mettre dans la terminologie moderne, nous pourrions dire « Il y a un ordre moral dans le monde, et lorsque vous violez cette loi morale, les conséquences se produisent immédiatement. » J. A. Froude, l'historien, déclaré « Une leçon et une seule leçon. On peut dire que l'histoire répète, avec netteté que le monde est construit, en quelque sorte, sur des fondations morales, et à long terme, il va bien avec le bien, et à long terme, il est malade avec les méchants. » Maintenant, la colère est révélée du ciel. Alors, tout d'abord, dans l'ordre moral. Je veux dire, vous faites des choses immorales, et vous payez un prix, parce que le monde est fait sur la loi morale. Vous vivez une vie dissolue, dégénérée, mauvaise vie, et il y aura des conséquences. Cela vient du ciel, parce que le ciel a établi des règles. Mais troisièmement, Et cela va bien au-delà. La colère de Dieu ne se limite pas simplement à l'ordre moral. Il y a aussi une activité personnelle de la part de Dieu. Dieu n'est pas seulement une force cosmique qui a fait une loi et l'a simplement laissé suivre son cours. Dieu s'implique. Ce n'est pas simplement un jugement automatique par un ordinateur cosmique anonyme. Dieu est impliqué, et la Bible montre une réaction personnelle très intense au péché dans le cœur de l'être divin. Oui, il y a un ordre moral, mais oui, il y a une réelle implication personnelle. Permettez-moi de vous donner une illustration. J'ai beaucoup d'extraits d'écriture que je pourrais vous montrer, mais permettez-moi de vous en donner une rapide dans Psaume 7:11. Il est dit au verset 11 « Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu est en colère. » La Bible dit que Dieu est en colère. Il n'y a pas qu'un ordre moral. Dieu est en colère. Il n'est pas en colère de temps en temps. Il est en colère contre les méchants à quelle fréquence? Tous les jours. Vous dites, vraiment? Oh oui, il est en colère tous les jours. Dieu est en colère chaque jour. Dieu se met en colère. Il y a une loi morale, un ordre moral, mais il y a aussi un acte personnel, car Dieu exprime la colère d'une nature sainte. Cela vient du ciel parce que le ciel a établi l'ordre moral, et c'est du trône de Dieu que vient la colère. Quatrièmement, la nature de la colère. Quelle est la nature de la colère? Quel genre de colère est cela, dit très simplement? La colère de Dieu, c'est sa qualité, est révélée, c'est son temps, constamment révélé du ciel, c'est sa source, contre l'impiété et l'iniquité des hommes, c'est sa nature, c'est la colère contre le péché. Vous le saviez, ce n'est pas une fureur incontrôlée et irrationnelle. Dieu n'est pas comme un criminel qui prend sa vengeance sur la personne la plus proche. Elle est discriminée. Elle est soigneusement signalée à l'injustice et à l'impiété des hommes. Azebeya et Adikia. Que veulent dire ces mots? L'impiété et l'iniquité. Le premier mot, bien qu'ils se chevauchent vraiment, est que vous puissiez les appeler des synonymes dans le sens le plus pur. Il utilise simplement deux mots pour vous montrer que Dieu est en colère contre le péché. Mais il y a quelques nuances de sens que je trouve intéressantes. Le premier mot fait référence à l'impiété. Cela se concentre sur la relation avec Dieu. Dieu est en colère parce que les hommes ne sont pas correctement liés à lui. Ils sont impies, voyez-vous. Ils ne sont pas pieux. Les hommes sont impies. Dans Jude, il est dit que Dieu va exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, trois impies d'affilée. Puis il dit, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Quatre fois en un verset, impie, mais pas correctement lié à Dieu. Cela fait référence à l'impiété envers Dieu. Cela fait référence à un manque de révérence, à un manque de dévotion, à un manque d'adoration. Cela conduit à l'idolâtrie. Il considère le péché comme un échec à vénérer Dieu. Le deuxième mot, iniquité, bien qu'il englobe également le premier concept, penche vers le résultat du premier mot. Lorsque vous n'êtes pas correctement lié à Dieu et que vous ne vénérez pas Dieu correctement, alors vos transactions avec tout le monde autour de vous ne sont pas correctes non plus. Ainsi l'impiété conduit à l'iniquité. Tout péché, voyez-vous, attaque d'abord la majesté de Dieu, puis sa loi. La raison, et je le crois vraiment, si les hommes traitent les hommes comme ils le font, c'est parce qu'ils traitent Dieu comme ils le font. L'impiété conduit à l'iniquité. Les personnes disent « Oh, que se passe-t-il ? Tous les meurtres, tous les crimes et toutes les choses horribles qui se passent. Pourquoi l'homme est-il si inhumain envers l'homme? C'est parce qu'il n'a aucun lien avec Dieu. Toutes les relations humaines et toutes les transactions humaines sont corrompues. Nous en verrons plus à ce sujet dans les deuxième et troisième chapitres, ainsi que dans le reste du premier chapitre. Ainsi, la colère de Dieu est dirigée contre le péché. Thomas Watson dit « Le péché est pour l'homme, comme la rouille est pour l'or, comme la tache est pour la beauté. Le péché dans les Écritures est appelé un tissu menstruel. C'est ce qu'on appelle une plaie de peste. Les vêtements sales de Josué étaient un hiéroglyphe du péché. Vous savez aussi bien que moi comment Dieu déteste le péché. En fait, savez-vous que c'est la seule chose que Dieu déteste? C'est vrai. Le saviez-vous? Aucun homme n'entrera jamais dans sa présence avec le péché. Cinquièmement, l'étendue de la colère. Ceci est un point très bref. Vous dites, « Je suis un homme plutôt bien. À qui parlez-vous, MacArthur ? Ce n'est pas moi. J'appartiens à l'ordre royal des imbéciles. Je donne à la charité. Je veux dire, je suis fondamentalement une bonne personne. D'accord. la colère de Dieu est révélée du ciel contre, quel est le mot suivant? Tout.
Tout?
Tout. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Certaines personnes sont meilleures que d'autres, mais personne n'y arrive. J'avais l'habitude d'utiliser l'illustration de tout le monde descendant à la plage et essayant de sauter à Catalina. Oui, nous allons vous donner un départ de course, seulement 26 miles. Vous pouvez courir aussi vite que vous le souhaitez et aussi longtemps que vous le souhaitez et sauter. Certains d'entre vous iraient environ 6 pieds. Certains d'entre nous pourraient être de formidables sauteurs en longueur et sauter 26 pieds, mais personne n'y arriverait. Bien sûr, les personnes sont différentes. Certains semblent meilleurs que d'autres. C'est trop loin pour sauter, et donc toute impiété et injustice des hommes. Personne ne s'échappe. Personne. Cela n'a besoin que d'être un bref point, parce que les Écritures sont si claires. Vous ne pouvez pas vous échapper. Je vais juste vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Écoutez-le simplement. Ézéchiel 17:15, parlant de Sédécias, qui a fait une alliance avec Dieu et ensuite décidé de la rompre, et a tendu la main à l'Égypte pour l'aider, quand tout ce dont il avait vraiment besoin était Dieu. C'était sa promesse. Mais il s'est révolté contre lui, en envoyant des messagers en Égypte, pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. En d'autres termes, au lieu de faire confiance à Dieu, il a décidé qu'il avait besoin de l'aide de l'Égypte. Puis il dit après qu'il a fait cela, « Celui qui a fait de telles choses, réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance, et il échapperait? Maintenant écoutez ceci. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment, et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Il n'échappera pas. Va-t-il s'échapper? Je suis vivant. La réponse est non. Je me fiche de qui vous êtes. La moindre trace d'impiété et d'iniquité vous amène sous la colère de Dieu. Allez-vous vous échapper? Non, l'inéluctabilité. Enfin, nous avons vu la qualité de la colère, le temps de la colère, la source de la colère, la nature de la colère, l'étendue de la colère, et maintenant la cause de la colère. Vous dites, comment Dieu peut-il tenir tous ces pauvres pour responsables? Je veux dire que je suis né dans une famille pécheresse, que sais-je? Oh, vous seriez surpris de ce que vous savez. La fin du verset 18. La colère de Dieu est révélée du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la quoi? La vérité dans l'iniquité. Maintenant, cela ouvre toute la section suivante. Et dimanche soir prochain, ce sera l'un des messages les plus définitifs que vous ayez probablement entendu alors que nous examinons le déclin et la chute de l'homme. Mais il dit que le vrai problème est la cause de la colère et que les hommes détiennent la vérité dans l'iniquité. Littéralement, nous le lirions de cette façon. Des hommes qui tentent constamment de supprimer la vérité par leur péché. Le péché est si fortement dans le cœur de l'homme qu'il attaque la vérité. Les personnes disent, les païens, qu'en est-il de ceci et qu'en est-il de cela? Écoutez, la vérité est là, comme il le soulignera dans le prochain passage. Mais les hommes la suppriment. Le péché attaque toujours la vérité. La vérité fondamentale de Dieu et de sa parole est attaquée. On essaie toujours de la supprimer, de l'enterrer, de l'effacer. Cependant, c'est par l'essence du péché que la tentative est toujours vaine. Les hommes vivent dans la culpabilité malgré leurs tentatives. La connaissance de Dieu est terminée. Si la connaissance de Dieu, écoutez, que je crois, est accessible à chaque être humain sur la terre, peu m'importe à quel point cet individu est obscur ou éloigné, je crois que la connaissance de Dieu est disponible. Et si elle accomplit son travail légitime, et que l'homme lui permet de faire ce travail légitime, elle gardera un homme des excès du péché, et le conduira à Dieu. Mais les hommes la suppriment. Ils aiment les ténèbres plutôt que quoi? La lumière. Pourquoi? Parce que leurs actes sont mauvais. Le fou dit toujours, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un Dieu, parce que s'il y a un Dieu, il est en difficulté. Il est dit dans le psaume 14:1, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi? Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Je suis sûr qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un Dieu pour les appeler à leur responsabilité. L'homme essaie de poser comme principe qu'il n'y a pas de Dieu. Et s'il ne fait pas cela, il dit, « J'inventerai un Dieu qui peut tolérer mon péché. » Il évite clairement la vraie voie de Dieu. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas de problème avec les personnes qui se posent la question. Comment les païens doivent-ils savoir? Je crois que Dieu s'est révélé à chaque individu, et si les individus, où qu'ils soient, aussi éloignés qu'ils soient, ne suppriment pas cette vérité par l'amour du péché, cette vérité les protégera des excès du péché, et finalement les conduira à la vérité de Dieu, par sa gracieuse providence. Mais les hommes ne font pas cela. Ils évitent la vérité de Dieu. Tous les hommes possèdent suffisamment de germes de la vérité divine et de la loi morale pour les préserver de l'enfer. Mais ils ont stoppé la croissance et le développement de ceux-ci par l'amour du péché. La colère de Dieu attend. Si vous n'êtes pas chrétien, la colère de Dieu vous attend. Le docteur Barnhouse avait une illustration appropriée, et je terminerai avec ceci. Il a dit, « La colère de Dieu est comme une grande eau retenue derrière un barrage. » Puis a dit, « Je me souviens de la première fois que j'ai vu Ouverdam, l'un des plus grands de tous les barrages sur Terre. Il a été jeté à travers les eaux du fleuve Colorado, et ses eaux ont reculé sur des kilomètres et pénétré dans chaque petite crique et vallée. Il en a été ainsi avec la colère de Dieu. La première fois qu'un péché a été commis, la colère de Dieu a été emmagasinée contre ce péché. À mesure que les hommes vivaient sur la terre et que leur cœur devenait de plus en plus méchant et que le déclenchement de leur péché devenait plus violent, le stock de colère grandissait de plus en plus, retenu par la patience de Dieu, qui s'étend à travers la vallée de son jugement comme un grand barrage de l'autre côté de la rivière. Dans sa prescience éternelle, Dieu le Père a prévu tout le péché qui serait commis après le temps de Christ, votre péché et mon péché, et il a stocké sa colère contre lui, derrière le barrage de sa patience. La colère de Dieu contre le péché qui, même aujourd'hui, n'a pas encore été commis, est également emmagasinée dans l'attente du jour où sa patience éclatera dans sa sainte fin. Pendant des milliers d'années, ce barrage a résisté, et Dieu a retenu sa colère. De temps en temps, tout au long de l'histoire humaine, il se pencha pour plonger sa main dans le déluge refoulé et verser quelques gouttes de colère sur une manifestation particulièrement vicieuse de rébellion. Mais pour la plupart, Dieu semblait ignorer les péchés de l'homme dans les siècles avant la croix. C'était peut-être comme si le péché était toléré, mais il ne faisait que s'accumuler. Vous savez, le barrage s'est brisé un jour et il s'est cassé au calvaire. Cela s'est brisé sur Christ et l'a noyé dans toute la mer du péché. Cela se brisera de nouveau et cela noiera tous les hommes qui ne sont pas en Christ. Christ a pris le jugement pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, ils prendront leur propre jugement. La colère de Dieu les attend, parce qu'ils détiennent la vérité, peu importe ce qu'ils prétendent, mais ils la détiennent et la répriment à cause de leurs péchés. Maintenant écoutez, c'est là que commence l'Évangile. Mais rappelez-vous, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que Christ a pris toute la fureur de la colère de Dieu, si vous acceptez sa gracieuse substitution pour vous. Père, nous sommes reconnaissants ce soir d'avoir pu examiner ce thème. Dur, effrayant, et pourtant si important. Il est facile pour nous de devenir insensibles. Aide-nous à être comme si c'était la première fois que nous entendions cela, à nous précipiter pour avertir les hommes et les femmes, les jeunes de la colère à venir. Que personne ne quitte cet endroit ce soir sous le jugement, la condamnation, mais puisse-t-elle accepter la disposition gracieuse du Christ qui a pris ce barrage emmagasiné de fureur à la croix du calvaire, et puisse-t-elle grimper sur cette île de sécurité, afin que lorsque le barrage se brise à nouveau au grand trône blanc, elle sera déjà entrée dans le paradis préparé pour eux. Pendant que vos têtes sont inclinées pendant un instant, laissez-moi vous encourager de ce que si vous ne connaissez pas notre Seigneur Jésus-Christ ce soir, ce serait le moment. Pas de temps comme le présent. Personne ne sait combien de temps vous avez. C'est un message sérieux, très sérieux, plus sérieux que tout message que je pourrais donner. Mais c'est là que nous en sommes dans le texte. Je sais que le Seigneur a un but pour cela. Peut-être que vous êtes ce but. Dans le silence de votre cœur, vous pouvez ouvrir votre vie au Christ. Demandez-lui de vous retirer de la colère à venir. Acceptez le fait qu'il a porté votre péché dans son propre corps, sur la croix, et vous a libéré si vous mettez votre foi en lui, Père. Que ce soit une nuit de salut dans le cœur de beaucoup, pas seulement ici mais partout dans ce pays et dans le monde où ton nom est élevé. Que ce soit un jour où le ciel se réjouit des âmes qui sont entrées dans le royaume, sont sorties de la colère de Dieu pour venir dans l'amour protecteur du Christ. Dieu, nous savons que tu es en colère contre le péché. Nous savons combien tu hais le péché, mais ô combien tu dois aimer pour avoir tant haï le péché, et pourtant mettre tout cela sur celui que tu aimais. ton propre Fils, le Seigneur Jésus, pour nous. Oh, comme tu dois aimer! Merci pour cet amour qui pardonne, cet amour miséricordieux, cet amour gracieux. Nous prions pour que personne ne parte sans recevoir cela de ta bonne et fidèle main. Nous te remercions pour ce temps ensemble. Nous te louons pour tout ce que tu as accompli. Au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.